Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le MAC de l'été, le magazine culturel de vos débuts de soirée sur France Inter. Deuxième volet aujourd'hui de notre virée cinéphilique transalpine, nous sommes en direct du Festival International du Film de Locarno, avec à notre menu du jour du cinéma coréen, le documentaire Argument d'Olivier Zaba et le premier film de Nadège Trébal, 12 000. Hier soir, sur la Piazza Grande, cette immense place où près de 8 000 spectateurs assistent chaque jour à des projections sur un gigantesque écran, a été remis un Excellence Award à Song Kang-ho, l'acteur fétiche du réalisateur Bong Joon-ho, palme d'or au dernier Festival de Cannes pour son fabuleux film Parasite. Pour l'occasion, Memories of Murder, le film de leur rencontre en 2003, a été projeté sur la Piazza et une masterclass a été donnée cet après-midi par les deux artistes, animée par Olivier Père, ancien directeur artistique du Festival de Locarno, aujourd'hui directeur général d'Arte France. Alors ça paraît incroyable, mais c'est pourtant vrai. Bong Joon-ho et Song Kang-ho sont présents ici, en studio, avec nous, avec Olivier Père. Nous sommes fous de joie de les accueillir sur France Inter, dans le MAC de l'été.
France Inter. Duh. Le MAC de l'été. Anna Sigalevitch.
Bong Joon-ho, Song Kang-ho et Olivier Père. Bonjour.
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 Bienvenue sur France Inter. Bienvenue aussi à Aram Kim qui va assurer la traduction de notre entretien. Alors, Memories of Murder a été projeté hier soir. Est-ce que vous avez assisté à la projection?
Oui, nous étions en fait effectivement à la projection hier soir à la Piazza Grande avec les spectateurs de Locarno. J'étais vraiment émue, il y avait énormément d'étoiles dans le ciel, c'était une super expérience.
Est-ce que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas revu le film ? Song Kang-ho ?
Oui, c'est vrai que c'est un film qui date déjà d'il y a 16 ans. Donc, je crois qu'on l'a vu ensemble au 10e anniversaire. On l'avait vu ensemble.
Son Kang-ho,
je le vois dehors, en plein air, à Locarno.
Grande expérience.
C'était effectivement notre premier film ensemble. C'est vrai que c'était une sensation assez étrange. J'ai beaucoup apprécié.
Tu n'as même pas fermé le lieu? Mets des barricades, bordel. Faut que personne ne rentre. T'as prévu la brigade criminelle? Au fait, où est la personne qui nous a prévenus? Vous avez même pas préservé la scène du crime, bordel. Allez-vous-en, les enfants. Qui a reçu l'appel? Où est le gars qui nous a appelés? On n'arrive pas à préserver la scène du crime, c'est le bordel total. Vous auriez dû photographier quand je vous l'avais demandé.
Alors, ça fait beaucoup rire, Bong Joon-ho et Song Kang-ho de s'écouter et d'être traduit en français. Bong Joon-ho, comment a eu lieu votre rencontre avec Song Kang-ho et quel acteur vous avez découvert sur le tournage?
En 96-97, quand je travaillais en tant que réalisateur assistant, à l'époque où il y a eu Monsieur Song Kang-ho qui a joué dans Green Fish de Lee Chang-dong et j'ai vu qu'il a interprété son rôle merveilleusement bien. Je pense que parmi tant d'autres, j'ai été vraiment énormément choquée agréablement et je me suis dit il fallait absolument que je rencontre sous prétexte d'une réunion pour la production et je l'ai invité à prendre un café dans mon bureau. C'était donc en 97 exactement.
Donc 6 ans avant Memories of Murder.
Tout à fait.
Et vous, Song Kang-ho, est-ce que vous aviez vu, donc un peu plus tard, hein, puisque le film est sorti en 2000, le premier film de Bong Joon-ho, Barking Dog?
Oui, évidemment, j'ai vu son premier film de Bong Joon-ho, Barking Dog. Mais malheureusement, il a été fait, on va dire que c'était un vrai flop.
Ça vous fait fait vous courir aussi. Vous êtes bien rattrapé.
Mais jom 뒤늦게 본 거죠, 제가.
Mais effectivement, je l'ai vu un peu tard du coup.
근데 제가 그때까지 본 한국 영화 중에 가장 재밌게
본. Mais en tout cas, c'était un des films vraiment que j'ai adoré et je me suis trouvé enfin, j'ai trouvé qu'il était vraiment hilarant pour moi et je me suis posé la question mais pourquoi il a pas marché?
만나고 싶고.
Et du coup, depuis, je me suis dit ah tiens, j'aimerais bien rencontrer ce réalisateur et pourquoi pas travailler avec lui.
Alors, vous avez fait depuis 4 films ensemble, hein, donc Memories of Murder, le premier, The Host, Snowpiercer et Parasite, tout récemment. Est-ce que vous avez développé tous les deux un mode de fonctionnement dans le travail qui vous est propre ?
방식에 대해서 오히려 별로 생각을 안 해보게 되는 거죠. 자연스럽게 우리가 공기를 마시거나 물을 마실 때 별 생각이
없. 오히려
역설적으로.
Et même contradictoirement.
정말 호흡이 잘 맞다면.
Je pense que si on avait vraiment une situation de symbiose, on s'entendait tellement bien, je pense que justement on ne se parlerait pas. Mais là, justement, on avait envie de se parler. De plus en plus, j'avais envie de le rencontrer. C'est vrai que les paroles ne font pas tout, mais en fait, on échange énormément.
Alors, Bong Joon-ho, vous préparez minutieusement vos mises en scène, en storyboardant aussi vos scénarios. Est-ce que c'est aussi pour laisser de la place à l'improvisation pour les acteurs ? Leur donner un cadre très précis ?
물론 이제 스토리보드를 예, 열심히 그리고 이제 뭐 카메라
oui, je suis effectivement à fond dans le storyboarding et je calcule dans les détails les mouvements de caméra et effectivement je calcule aussi toutes les déplacements, les blocking lines en fait de mes acteurs mais en dehors de ça, j'attends en fait de leur côté aussi qu'ils fassent un jeu qu'ils montrent un jeu assez naturel en tant qu'acteur et même sur les dialogues, je préfère en fait qu'ils les adaptent vraiment à leur façon pour que ce soit le plus naturel possible. Et c'est ce que j'essaye de faire au mieux aussi.
Au mieux, et qui donne aussi une sensation d'inattendu. Je trouve que la tournure des événements dans vos films ne prend jamais la direction qu'on pourrait croire. Vous laissez toujours une place.
방금 말씀하신 그런 느낌은 이제 송강호 선배가 스스로
보여주신 것 같아요. Sensation justement, ça vient effectivement de Song Kang-ho. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose de calculé en amont de ma part. On va dire que pour chaque prise justement, c'est plutôt Song Kang-ho qui va essayer vraiment des tournures différentes à chaque fois nouvelles. Et c'est comme si on tourne en fait un documentaire finalement parce que c'est quelque chose de tellement inattendu et tellement nouveau. C'est ça qui est hallucinant.
Alors, dans vos films, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. C'est des films d'une richesse et d'une complexité extraordinaire. On va peut-être en évoquer quelques-uns, notamment la question du coupable, de la culpabilité, qui me semble essentielle dans votre cinéma, que ce soit dans Mother, dans Memories of Murder, dans Snowpiercer, dans Parasite. Parce que, en fait, le coupable qui est désigné par la société comme bouc émissaire est rarement le vrai coupable. Et en fait, il n'est pas non plus celui qu'on croit, nous, comme spectateurs. La question de la culpabilité est très importante.
Vous évoquez le caractère, enfin le personnage de Park Hae-il dans Memories of Murder. On a l'impression effectivement que ce soit même les inspecteurs, tout le monde en fait essaye de pointer en fait ce personnage en se disant c'est lui le coupable. Mais c'est sûr que d'un autre côté, on n'est jamais vraiment certain à 100%. Et là, par exemple, c'est ça qui accentue en fait le suspense, notamment dans le film Memories of Murder, parce que personne n'en est vraiment sûr à 100%.
Alors vous pointez aussi, me semble-t-il, la binarité d'une société, celle qui a le pouvoir et qui ne cherche plus, comme si la complexité à un moment donné échappait à ceux qui ont le pouvoir.
Bong Joon-ho. 일단 뭐 강원 선배님이 맡으셨던 역할도 대부분 그랬지만 좀 평범하고
La plupart des rôles interprétés par son corps justement dans mes films étaient un peu dans ce style-là, c'est-à-dire que c'est toujours des personnages qui sont dans une situation assez difficile et du coup ils sont obligés de se donner en fait à 300% pour essayer de faire quelque chose et du coup ça engendre effectivement des situations inattendues par rapport à la société aussi. Et c'est ça qui a été certainement mis en avant dans mes films.
Dans vos films. Et dans Parasite, c'est vrai que le mot parasite, il peut s'appliquer aussi à tout le monde, en fait, parce qu'il y a... Il y a en effet les pauvres qui dépendent des riches pour juste pour survivre, mais les riches dépendent aussi des pauvres pour leur propre confort.
Tout à fait, on pourrait effectivement dire que ce terme parasite convient dans les deux sens.
Dans les deux sens. Alors, on sent de nombreuses références hein, dans Parasite. Voilà. Moi, on pense à Chabrol avec la cérémonie, on pense à Metropolis de Fritz Lang, on peut penser aussi à The Housemaid, hein, les références sont aussi françaises et européennes que coréennes. Vous, votre cinéma est pétri de toutes ces références-là.
Chabrol의 뭐지 그 야수는 죽어야 한다. 항상 내가 프랑스 제목.
Le film donc. Que la bête meurt de Claude Chabrol, dont je cite tout le temps, effectivement, et un autre film avec Isabelle Huppert.
La cérémonie
de La cérémonie, oui, voilà, ouais. De Chabrol également. Et aussi le film, donc du coup, Fang Kang-ho a joué avec le film de Park Chan-wook, c'est donc du coup Sympathie, Femme et Vengeance. Et là, en fait, effectivement, on voit qu'il interprète un rôle d'un homme assez riche, mais effectivement, il y a aussi, c'est un personnage qui a ses propres difficultés, et effectivement, ce genre de choses, ça m'a beaucoup aidé aussi.
Son Kang-ho, oui.
On va dire que c'est plutôt quelque chose, en fait, qui ressemble à une sorte de philosophie, c'est-à-dire comment on perçoit le monde, qu'est-ce qui est juste finalement dans ce monde. On n'est jamais sûr si c'est la bonne solution ou le mauvais choix, et même si c'était un personnage dans le film de Park Chan-wook que j'ai interprété était un rôle qui était donc du coup quelqu'un plus dans le milieu aisé, on va dire que c'était quand même assez contrasté par rapport à Monsieur Park qui a été joué par l'autre acteur dans le film de Parasite.
Song Kang-ho, vous avez fait donc 4 films avec Bong Joon-ho, mais vous êtes aussi l'acteur fidèle de d'autres réalisateurs coréens. Votre premier film, c'était avec Hong Sang-soo en 96. Vous travaillez beaucoup en effet avec Park Chan-wook et avec Kim Ji-woon. Est-ce que ce sont des approches très différentes? Est-ce que vous avez une façon d'aborder vos rôles très très différentes en fonction des réalisateurs?
우선 그 몸무게가 다르고요.
Alors déjà, c'est mon poids qui change à chaque fois que je travaille avec ces trois réalisateurs.
Ah bon? Il y a des films plus musclés que d'autres.
Voilà. Par exemple, là, on pourrait dire que Bong Joon-ho, lui, c'est le plus imposant, hein, on va dire.
Kim Ji-woon 감독님은 굉장히 handsome.
Alors Kim Ji-woon, c'est le plus beau gosse.
Ah bon. 감독님마다 다들 개성이 강하고
évidemment les réalisateurs ils ont chacun leur propre style et ils ont aussi une intention tellement différente et personnelle par rapport en fait à leur point de vue dans le milieu du cinéma et c'est vrai que pour moi en tant qu'acteur c'est quelque chose d'assez plaisant de pouvoir justement goûter à ces différentes saveurs dans le cinéma coréen.
Et vous avez un potentiel comique très très grand. Song Kang-ho.
아, 저요?
오이.
아, 글쎄요, 뭐, 저는 그렇게.
Alors, je sais pas, c'est pas du tout parce que j'ai envie de faire rigoler les gens, hein, c'est pas non plus mon but, mais je pense que c'est ça la vie, finalement, dans la vie, il y a de la joie, il y a aussi de la tristesse, je pense qu'il y a toutes ces différentes choses, et je pense que moi, j'essaie d'exprimer justement ces différentes choses de manière le plus naturelle possible.
C'est ce qui est frappant dans vos films, Bong Joon-ho, c'est à quel point le fond est dense et sérieux. mystérieux et complexe et en même temps la liberté de la forme où il y a toujours un détail qui décale les choses.
Je pense qu'effectivement, quand il y a une situation, je pense en fait à deux sensations différentes. Je vois que par exemple, Son Gang-ho, lui, il peut l'interpréter même à plus de deux ou trois ou quatre sensations qu'il arrive à exprimer.
Que ce que vous aviez imaginé.
Voilà, exactement. C'est ça qui est assez hallucinant.
C'est drôle parce que hier, on recevait une actrice réalisatrice qui s'appelle Jeanne Balibar et qui disait qu'il y a des acteurs qui ne sont pas des acteurs qu'on distribue, mais qui rendent les films possibles. Est-ce que vous pensez aussi comme ça, Bong Joon-ho?
Ah ouais, ce genre de choses.
Oui, elle pense ça. Est-ce que vous écrivez donc, enfin après Memories of Murder, est-ce que vous avez écrit des rôles spécialement pour Son Kang-ho?
Alors oui, et aussi pour Snowpiercer, j'avais déjà en tête de faire jouer en fait Son Kang-ho dans mon film, et aussi pour Parasite, je lui avais déjà parlé, même au moment quand j'avais à peine commencé l'écriture du scénario.
Et Bong Joon-ho, on sent aussi dans votre cinéma à quel point vous filmez les contrastes de la société coréenne, à la fois sociale et aussi topographique. Il y a vraiment une confrontation entre les buildings flamboyants et puis les petites échoppes. Il y a une sorte de verticalité dans votre cinéma qui est très fort.
Surtout, par exemple, dans Parasite, il y a énormément de différents personnages, et justement, c'est une sorte d'histoire de drame où ces différents personnages arrivent à montrer, en fait, dans quelle situation ils vivent de la société dans laquelle ils appartiennent, notamment par rapport, en fait, à ces différentes habitations. Notamment les espaces, on pourrait dire que c'est effectivement un élément qui représente la différence sociale, leur rang, et ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer en dehors de justement
de donner à voir,
évidemment. Exemple, on voit Son Gang-ho qui vit dans une habitation à l'entresol, qui est quelque chose qui est très particulier en Corée, et c'est-à-dire que c'est l'entresol. Seul, comme le nom l'indique, on pourrait penser que là, si la situation s'empire, on va s'enfoncer dans le sous-sol. Et si on arrive à aller un peu mieux, ça veut dire qu'on va pouvoir remonter en
et avoir plus de lumière
et un peu plus de lumière.
Bong Joon-ho, le désir et la frustration sont aussi très importants, je trouve, dans vos cinémas. Je pense à plusieurs scènes de sexe qui sont filmées notamment dans Mother ou dans Parasite ou même dans Okja, où en fait vous ne filmez pas les scènes de sexe, mais vous filmez les gens qui regardent les scènes de sexe qui ne devraient pas être là.
Il y a beaucoup de scènes, on va dire, de sexe, ou sinon des scènes où on pourrait penser effectivement que c'est des scènes assez osées, mais c'est plutôt des scènes de sexe qui donnent le fait qu'on se sent un peu mal à l'aise parce qu'on a l'impression qu'on ne devrait pas regarder ça. Et là, effectivement, dans Parasite, c'est le film où on est vraiment à l'apogée de ce genre de sensation. C'est-à-dire que normalement, on ne devrait même pas se mettre dans cette position.
C'est terriblement embarrassant.
C'est très embarrassant, voilà.
Mais dans Mother aussi, il y a une scène exactement comme ça où elle est cachée.
J'ai amoureux que. Alfred Hitchcock,
je pense que j'ai dû être pas mal inspiré évidemment par mon gourou Alfred Hitchcock. Et je sais que j'arriverai pas à arriver, mais je pense que c'est ce côté-là effectivement un peu voyeurisme. Mais je sais pas si je peux me comparer. J'oserais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier?
Mais moi, je suis un grand admirateur du cinéma de Bong Joon-ho depuis Memories of Murder. Et c'est vrai que c'est un cinéaste chez qui on sent une grande connaissance, une grande passion et une certaine influence du cinéma américain, du grand cinéma américain, que ça soit Hitchcock, Peckinpah, Spielberg, qu'il a parfaitement réussi à acclimater à une réalité sociale, politique, historique, humaine, qui est celle de son pays, de la Corée. Donc ça rend les films totalement authentiques et en même temps avec une virtuosité, avec un sens de la mise en scène qui doit effectivement sans doute beaucoup à certains grands cinéastes américains et aussi à des cinéastes français comme Chabrol qu'il cite souvent.
Ou Clouzot aussi que vous citez. Olivier Père, vous dirigez Arte France Cinéma. Comment ça se fait que selon vous, que le cinéma coréen ait une telle vitalité depuis à la fois son histoire et puis depuis les années 2000 où il y a une nouvelle vague incroyable?
Ben justement, je pense que c'est grâce à des gens comme Song Kang-ho, ou Bong Joon-ho, ou Park Chan-wook, toute cette génération qui a émergé un peu au même moment, à la fin des années 90, début des années 2000. Je pense que c'est la conjonction de plusieurs éléments, une volonté politique, puisque le pays sortait de plusieurs années de dictature et qui avait la volonté de vraiment supprimer la censure, d'aider, même de façon très protectionniste, le cinéma national, des producteurs qui ont permis, et toute une génération, une nouvelle génération de gens comme Bong Joon-ho, comme Kim Ji-woon, qui ont été nourris à toute une cinéphilie. C'est la première génération de cinéastes cinéphiles, et qui ont fait ces films, qui sont à la fois des films de genre, des films d'auteur. Il y a une grande circulation des genres, parfois à l'intérieur du même film, comme c'est le cas dans les films de Bong Joon-ho, et avec une vraie pertinence politique. C'est à la fois un sens du spectacle, du divertissement, de faire des films très excitants, mais avec un contenu, avec un fond qui est très 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 sérieux, très très solide. Et donc il y a un mélange de virtuosité, d'intelligence et de plaisir, comme ça, de goût du cinéma, qui effectivement caractérise le cinéma coréen, qui est devenu très rapidement à la fois une industrie très très solide et un nid de grands talents, de grands films, et ça continue, c'est-à-dire que depuis les années 2000, ça continue, et chaque année, il y a des grands films coréens de cinéastes aussi différents que Hong Sang-soo,
Im Sang-soo aussi, moi,
Im Sang-soo, Lee Chang-dong, voilà, la liste est longue, et elle s'allonge chaque année.
Chaque année. Est-ce qu'il y a une école de cinéma aujourd'hui qui est importante en Corée du Sud?
Il y en a beaucoup, oui, en Corée du Sud en ce moment. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est difficile à expliquer uniquement, en fait, par ces grandes écoles de renommée. Notamment moi-même, je n'ai pas fait, en fait, de spécialité majeure, en fait, dans le cinéma. Et pareil pour Song Kang-ho, il n'a pas fait, en fait, une école de
jeu.
Moi,
par exemple, justement, j'ai créé, en fait, une bande avec des amis ou de cinéma, de cinéphiles à l'époque, dans les années 90, pour créer en fait une sorte de club pour faire du cinéma ensemble.
Et Song Kang-ho, est-ce qu'il y a une tradition de jeu particulière en Corée? D'école de théâtre ou de cinéma?
Je n'ai pas eu effectivement une éducation vraiment typique d'un acteur, mais la plupart, effectivement, en Corée, il y en a beaucoup qui ont suivi un cours effectivement de jeu d'acteur, etc. Il y en a, oui, de plus en plus, mais je pense que c'est un peu cas par cas. Mais quand on regarde par exemple, le jeu de théâtre, je pense pas forcément que c'est quelque chose qui est tout de suite lié à une éducation, c'est-à-dire que c'est quelque chose peut-être d'inné ou différent.
Alors, Parasite a un succès immense en France, un tel succès qu'il y a une version française qui vient d'être faite pour que le film puisse sortir dans plus de salles et être accessible donc à plus de gens. Est-ce que ça vous étonne qu'il y ait un tel succès en Europe de votre cinéma?
Franchement, je ne sais pas qui a doublé ma voix en fait en version française, mais j'ai entendu, mais j'étais sûr. Voilà. J'étais tellement étonnée parce que c'est vraiment le terme qu'il a utilisé, hein. Et j'ai tellement envie de le rencontrer parce qu'il a exactement la même intonation de voix, je trouve, que moi. J'ai envoyé en fait la vidéo bande-annonce de la version en France, en VF, et justement, il a adoré. D'ailleurs, ils sont un peu similaires, non? Je trouve que le doublage est très très bien fait. Et je pense que, oui, c'est assez peut-être quand même difficile de trouver la même chose hein, dans les tonnes de voix, tout ça, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Je suis content aussi, évidemment, on est très content que le film succès, ait eu un succès monstre en fait en France et jusqu'à avoir en fait une version française en doublage, c'est génial.
Olivier Père, vous avez animé une masterclass tout à l'heure avec Song Kang-ho et Bong Joon-ho, donc vous avez déjà posé plein de questions, mais que n'ont pas entendu les auditeurs de France Inter. Est-ce que vous avez une question à poser à Bong Joon-ho et à Song Kang-ho?
Là, vous me prenez un peu au dépourvu parce que c'est vrai qu'on a un peu épuisé le sujet tout à l'heure. On a évoqué la complicité à la fois humaine et professionnelle avec ces deux grands protagonistes hein, de ce nouveau cinéma coréen qui dure et qui est toujours aussi bon. Non, moi, je voulais juste dire à Song Kang-ho que c'est à la fois une star immensément populaire en Corée, qui est quelqu'un qui est unanimement apprécié, admiré par les professionnels, par les cinéastes, par le public. Et je pense que c'est l'apanage d'être des vraies stars, d'être avant tout des grands acteurs et des très bons acteurs. Et c'est vrai qu'il a un talent de transformiste. C'est vrai qu'il parlait de ses cinéastes préférés, mais lui aussi, il change beaucoup hein, de poids, d'apparence, de plein de choses dans ses films. Et que c'est quelqu'un qui est toujours juste, qui est parfois dans l'histrionisme, dans la comédie ou dans les choses beaucoup plus retenues. Mais c'est vrai qu'il symbolise à lui seul tout ce cinéma coréen puisque justement il symbolise un peu ce mélange des genres et des émotions puisque c'est un acteur qui est capable de faire rire et de faire pleurer le spectateur dans le même plan et ça c'est magnifique.
Comme Samida.
Mais c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, Bong Joon-ho, Song Kang-ho, excusez-moi, d'avoir été en direct avec nous sur France Inter. C'était vraiment un immense honneur de vous recevoir. Merci aussi à Ram Kim d'avoir assuré la traduction. Et je rappelle que donc Parasite est encore partout en France, en version originale et dans une version française validée par Song Kang-ho lui-même.
Le Mac de l'été sur France Inter.
Olivier Père, j'aimerais profiter de votre présence pour saluer la mémoire d'un cinéaste que vous aimez beaucoup, c'est Jean-Claude Brissot, qui s'est éteint le 11 mai dernier, il avait 74 ans. C'est l'auteur de films magnifiques hein, comme De bruit et de fureur, Noces blanches, Céline, Un jeu brutal, son premier film ou encore Les savates du bon Dieu. Il avait été honoré ici lorsque vous étiez directeur artistique du festival pour son avant-dernier film, La fille de nulle part. On l'écoute lors de la réception de son Léopard d'or, c'était en 2012.
The Golden Leopard goes to La Fille de Nulle Part by Jean-Claude Brissot.
Je vous avoue que je suis assez touché. Je dis deux mots de l'histoire du film. Ce film-là, alors j'avais déjà fait des films avant, en 35 mm, et j'ai voulu faire à un moment un tout petit film avec rien, il n'y avait même pas d'ingénieur du son, pour voir si on pouvait, avec très peu de moyens, rompre avec le cinéma traditionnel. Moi, je suis, au cas où ça ne se verrait pas, beaucoup plus âgé que tous les metteurs en scène qui sont là. J'avais envie de rompre avec la prison de la production traditionnelle. Et j'ai fait un film avec rien, essayant de mélanger la vie quotidienne et des éléments fantastiques et émouvants. Alors je suis très touché, je ne m'attendais pas à me retrouver ici au festival et en plus ici sur cette estrade.
Voilà Jean-Claude Brissot donc pour son film magnifique La fille de nulle part. Olivier Père, qu'est-ce qui vous touchait et qu'est-ce qui vous passionnait dans le cinéma de Jean-Claude Brissot?
Eh ben c'est ce qu'il vient de dire, c'est un peu son refus du naturalisme et sa volonté d'aller vers des territoires rarement explorés au cinéma en général et dans le cinéma français en particulier, à savoir le fantastique, mais aussi la spiritualité, la transcendance, une forme de lyrisme qui est un lyrisme poétique mais aussi politique. Et tout ce qu'il dit résume parfaitement son cinéma, aussi ses derniers films, avec cette volonté d'expérimentation, d'aller vers plus de liberté, plus de légèreté.
Tourner donc, avec des toutes petites
tourner chez lui, voilà, avec une comme caméra numérique, pour des raisons très différentes que Cavalier, par exemple, avec la volonté de continuer à raconter des histoires, de pas être dans un cinéma purement expérimental. Ce Léopard d'or, et bien c'était le président du jury, c'était Happy Chapon, Vera Cetacool. On peut pas imaginer deux cinéastes aussi différents.
Non, mais ils sont tous les deux habités par des fantômes.
Ils se rejoignaient exactement dans la transcendance, la volonté de filmer des esprits, de filmer des fantômes. Et je suis sûr qu'Happy Chapon avait été sensible à cette histoire entre un homme et une femme, et qui se passait dans un appartement et qui convoquait beaucoup d'esprits, beaucoup de choses surnaturelles et très émouvantes. Donc c'est vrai que c'est un grand cinéaste qui nous a quittés, c'est un ami aussi, et c'est vrai que c'est une année un peu triste entre Agnès Varda, Jean-Pierre Mocky, Jean-Claude Brissot. C'était des esprits libres, des gens qui ont fait du cinéma jusqu'à leur dernier souffle, avec beaucoup de liberté, beaucoup d'énergie que peuvent leur envier beaucoup de cinéastes, jeunes ou moins jeunes. Et ils vont beaucoup nous manquer, parce que ce sont dans les marges, avec des francs-tireurs, avec des gens comme ça, des esprits forts, des esprits libres.
Et dérangeants aussi, et déviants aussi.
Et dérangeants.
Et c'est important.
Et qui était un peu... qui aimait le scandale, qui aimait faire des choses pas comme les autres, puisque Agnès est partie dans une direction qui était celle des arts plastiques, qui avait plusieurs flèches à son arc. Mocky et Brissot, ils avaient cette croyance absolue dans le cinéma, et je pense que c'était leur moteur, c'était ça qu'ils adoraient faire. Et Jean-Claude Brissot était quelqu'un d'assez très angoissé, très très malheureux, qui souffrait beaucoup, et il avait pas le bonheur facile. Même quand il a reçu le Léopard d'or, il y avait plein de choses qui le contrariaient. Il était quand même très heureux, parce que c'est un film qu'il avait fait avec son argent, donc il avait pu rembourser un peu ses
dettes. Et il s'est promené jusqu'à la fin de sa vie avec son petit sac de Locarno, je peux vous dire, il était très content.
La seule fois où il était heureux, c'est quand il faisait des films et quand il voyait des films. Quand il parlait de cinéma, il avait gardé cette passion pour Hitchcock, pour plein de cinéastes qu'il a porté comme ça toute sa vie.
Oui, c'était un immense cinéphile qui décortiquait aussi plan par plan, qui était capable de voir les films des tonnes de fois.
Un adolescent et un professeur quand il voyait des films et quand il parlait de cinéma, parce qu'il avait cette passion et cette envie aussi de la communiquer et d'en parler.
Merci beaucoup Olivier Père. Merci. On vous laisse filer à votre projection et on écoute l'actrice qu'il avait révélée dans Noce Blanche, Vanessa Paradis. C'était La plage de Vanessa Paradis, extrait de son album Les Sources. Alors nous avons maintenant le plaisir d'accueillir le réalisateur Olivier Zaba pour son film Argument, présenté ici à Locarno. C'est un film absolument passionnant, magnifique, qui nous emmène chez un couple, Ron Coleman et Karen Taylor, accueillant des personnes venues de toute l'Europe. Ces personnes, elles entendent des voix qui leur mènent la vie dure, avec lesquelles elles débattent et se débattent pour ne pas sombrer. Olivier Zaba, bonjour.
Bonjour.
Alors après vous être formé à l'école des Beaux-Arts de Grenoble, vous avez commencé à mener un travail de recherche plastique et filmique. Vous êtes l'auteur d'une douzaine de films, hein, tout format confondu. Qu'est-ce qui vous a mené vers les entendeurs de voix que vous filmez dans Argument ?
Ben depuis toujours, je travaille... Une des grandes notions du cinéma, des grands questionnements, est comment faire apparaître l'invisible, quelque part. Et j'ai fait un film qui s'appelait Fading, qui se terminait par des voix qui apparaissaient dans un hôpital. Voilà.
Donc c'est comme ça que c'est venu. Alors c'est 4 ans de travail, hein, une centaine d'heures de repérage en France, au Québec, au Royaume-Uni. Pourquoi est-ce que vous vous êtes arrêté sur ce couple que forme Ron Coleman, lui-même entendeur de voix, et Karen Taylor, sa femme, qui participe et agit avec lui dans l'écoute et le soutien apporté donc aux entendeurs de voix.
Ben, on a commencé à travailler sur l'idée de la psychose à partir de certaines personnes qu'on a pu rencontrer dans notre quartier.
Oui.
Et à partir de là, on a fait un très grand repérage qui consistait à, d'une part, aller voir certains milieux hospitaliers, et puis à rencontrer des personnes un peu dans toute l'Europe, particulièrement en France, au Québec. On a rencontré des Suisses, on a rencontré des personnes diverses. Et on a connu un peu le groupe des entendeurs de voix, Intervoice, qui est un groupe international, dont Ron et Karen sont des figures assez...
Emblématique.
Oui. Voilà. Donc à partir de cet énorme repérage qu'on a fait, on a resserré pour finalement... pouvoir faire un film qui soit à la mesure de nos moyens d'action, c'est-à-dire un film où on était dans une proximité avec les protagonistes et aussi où on pouvait partager un certain nombre de moments, on va dire, dans le cadre domestique ou dans l'intimité.
Oui, parce que le film, c'est vraiment ça, on y reviendra hein, sur la place de la caméra, mais il y a aussi le temps qui est donné, le ton qui est donné. Enfin, il y a un équilibre comme ça pour que chaque personnage puisse exister sans jamais s'apesantir. Enfin, c'est un film d'un film d'équilibriste, me semble-t-il, mais un film d'équilibriste qui prend son temps. Ça, c'est très particulier.
Je pense que c'est nécessaire, de toute manière, parce qu'on n'est pas dans une démarche de reportage, et donc la question de l'information est vraiment très mineure par rapport à ce qu'on recherche, c'est-à-dire comprendre un phénomène, le laisser apparaître. C'était aussi ça qui nous intéressait, c'était non pas faire le témoignage d'entendeur de voix, c'est-à-dire faire appel aux souvenirs, à raconter ce que sont les voix, mais est-ce qu'il existerait un moyen pour que ces voix apparaissent dans le film, fassent irruption et quelque part puissent devenir des personnages à part entière.
À part entière, oui, parce que toute la démarche donc de Ron et Karen est plutôt que en fait de faire taire hein, les voix, de les réprimer, parce que c'est des personnes qu'on pourrait psychiatriquement, basiquement qualifier de schizophrènes. Voilà un terme que eux réfutent. Et donc, plutôt que de leur donner des médicaments, de les réprimer, etc., le principe, c'est justement de les laisser s'exprimer, de les écouter, et puis de réussir à cohabiter avec elles.
Bien sûr. Il y a cette question, à un moment donné, de pouvoir négocier avec les voix. Et non pas considérer que c'est un symptôme, mais que l'expérience des voix fait partie de la diversité des expériences humaines, au même titre que n'importe quelle expérience. Donc à un moment donné, la place de la psychiatrie n'a pas, il n'y a pas la place pour la psychiatrie dans l'approche de Ron Coleman. Tout comme je crois que depuis le début, la question de la psychiatrie était presque bannie de ma démarche, dans le sens où même si on peut sous-tendre qu'il y a de la psychose ou des choses comme ça, en aucune manière je suis habilité à emprunter le regard de la médecine.
Who would you be Qui seriez-vous si vous étiez normaux? Qui serais-je sans mes voix? Je me suis beaucoup investi dans l'idée d'être un entendeur de voix. Je l'ai tourné à mon avantage. Quand certains me disent « Tu ne peux pas faire ça parce que tu es schizo », ce n'est pas de la stigmatisation, c'est de la discrimination. C'est une chose différente. La stigmatisation est notre incapacité à reprendre notre pouvoir. Le mouvement des femmes a été le début de la fin de la stigmatisation des femmes. Il a identifié les processus intérieurs de la stigmatisation comme le mouvement des Noirs et des homosexuels. C'est un combat politique. Lutter contre la discrimination est un combat social. Quand tu portes un tatouage comme le mien, psychotique et fier de l'être, tu remets en cause la possibilité de te stigmatiser. On ne peut pas me stigmatiser. Je suis fier de ma psychose.
Voilà, on entendait donc Rhône qui a ce tatouage comme ça. Alors, vous parliez, Olivier Zaba, de l'irruption des voix, de les faire rentrer dans le film. Il y a une scène qui est incroyable, où le couple en fait demande à une jeune fille, Déborah, d'écrire un dialogue avec la voix qui la harcèle, hein, parce que c'est une voix qui est violente, qui est très dure. Cette voix, elle s'appelle Mélanie, donc elle l'écrit. Le lendemain, elle joue, on assiste à ce dialogue. Et ce qui est hallucinant, c'est à quel point le discours est articulé et incroyablement rationnel, comme une extension de la conscience diffractée. Ça, c'est incroyable.
Je pense que c'est aussi le propre du film, c'est-à-dire à un moment donné de considérer que ce qu'on pourrait considérer comme des phénomènes qui pourraient nous paraître bizarres ou de l'ordre du délire, comme à parler avec un ange, ou finalement si on fait abstraction de ce que ça signifie, on se rend compte que Ron et tous ses partenaires ont une capacité énorme à mettre ça, à articuler ça. Et non seulement à l'articuler par rapport à eux-mêmes, mais aussi à l'articuler
pour les autres, c'est ça.
Pour les autres et à créer une vie et à offrir un vrai regard sur le monde. Un regard politique, comme c'est le cas effectivement dans la démonstration de Ron par rapport à la stigmatisation et la discrimination. Donc finalement, ce qui pourrait sembler être une introspection, quelque part collective, se traduit aussi par un énorme débat politique et sociétal.
Absolument, il y a un passage qui est très intéressant, notamment sur les Indiens, où on les voit donc à un moment étreindre des pierres. Ça, je trouve que c'est un moment qui est fort. Et puis ensuite, il parle d'un entendeur de voix amérindien. Il parle donc de la pensée non cartésienne des Indiens qu'on a voulu soit évangéliser, soit faire taire, tout simplement, et exterminer. Ça, je pense que c'est important dans le film aussi.
Bien sûr. Mais après, cette chose-là, c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, de développer, mais c'était surtout dans le film cette prise de parole de Paul Baker, puisque c'est son nom, était aussi à un moment donné de montrer que c'est un mouvement permanent. Et dans le film, effectivement, Ron a un certain nombre d'événements qui remettent en cause un peu sa pratique. Et finalement, on voit que lui, se retirant un peu de la scène, de cette scène, de ce groupe, il y a tout de suite quelqu'un qui est derrière pour reprendre un peu le flambeau de l'énoncé politique et d'une forme d'activisme.
Alors, ce qui est remarquable aussi, au-delà du sujet, hein, qui est certes passionnant, c'est la façon dont vous filmez. C'est-à-dire l'endroit où vous mettez la caméra, qui est vraiment exactement là où il faut. Il y a une distance qui est d'une justesse absolue et vous arrivez à ce que rien ne transparaisse d'une subjectivité.
C'est aussi, je pense que c'est le travail de l'auteur, de savoir se mettre en retrait, et je pense que c'est le plus fondamental, d'après moi. C'est-à-dire que ça permet d'une part de ne pas tomber dans l'écueil de la captation d'images, donc d'images de type reportage, et de mettre en place, qui favorise aussi le travail collectif, qui est de nous mettre au travail cinématographiquement. Je dis nous, c'est-à-dire l'ingénieur du son, et moi.
Thomas Fourel.
Voilà, Thomas Fourel, exactement. Et moi. Et c'est vrai qu'après, c'est une question de découpage et d'être le plus précis sur ce qu'offrent les situations cinématographiquement, c'est-à-dire du dialogue, donc essentiellement du champ contre champ. Donc c'est un peu un exercice de haute voltige, parce que à une caméra, faire du contre champ, champ contre champ avec 5-6 personnes, c'est dur. mais c'est une recherche de simplicité avant tout.
Et que vous réussissez absolument magnifiquement. Olivier Zabat, je vous propose maintenant d'écouter la réalisatrice Nadège Trébal nous parler de son premier long métrage, 12 000, présenté ici à Locarno en compétition internationale. Bonjour Nadège Trébal.
Bonjour.
Alors votre film s'appelle 12 000, vous le présentez ici en sélection concours international à Locarno. 12 000 pour les 12 000 euros que veut réunir votre héros, joué par Arié Vorthalter, pour se sentir digne face à vous, Nadège Trébal, qui incarnait sa femme et la mère de ses enfants.
Oui, 12 000 c'est la somme dont ils conviennent, parce qu'elle-même gagne 12 000 à peu près par an, en étant assistante maternelle, en gardant des enfants chez elle, à domicile. Et ils pensent que pour que ça continue bien entre eux, y compris sur le terrain charnel, il faut qu'ils gagnent pareil. Donc en fait, c'est à la fois une somme et un pacte, une promesse, un serment d'amour.
Alors le film s'ouvre justement par une scène d'amour que je trouve très audacieuse, qui est franchement étonnante, parce qu'elle est à la fois... très intime, on ressent beaucoup de choses, il y a vraiment de la chair et une sensualité assez troublante, et en même temps on voit rien, c'est une façon de filmer une scène d'amour qui est, je trouve, assez inédite, et dans laquelle vous êtes vous-même en jeu.
C'est un mélange d'impudeur et de pudeur, enfin, je pense qu'on se doit d'être impudique quand on écrit, quand on s'expose, que ce soit en jouant ou en écrivant, on se doit d'être impudique. Et j'ai l'impression, d'une certaine manière, de toute façon, la pudeur, elle revient toujours au galop. Donc il faut se donner les moyens de sortir de soi ce qu'il y a de plus intime.
De plus intime, et puis il y a quelque chose, vous, de la sensualité féminine qui est très forte, je trouve, et lui, de sa virilité aussi, qui est très fort, vraiment, la rencontre de ces deux corps, elle est assez puissante, et de virilité, il est question très fort, parce que on a aussi moi j'ai eu le sentiment que lui, dans le rapport d'argent, c'est essentiellement sa virilité qui est en jeu.
L'argent lui permet de se mesurer, c'est comme une sorte d'unité de mesure, parce que c'est une histoire d'amour, ça c'est sûr, et j'avais envie de l'incarner vraiment de façon très concrète par le désir charnel et par l'argent. Mais c'est aussi une histoire d'amour propre, c'est quelqu'un qui n'a pas de place dans le monde, qui n'a pas de travail et qui va réparer l'image qu'il a de lui-même en réunissant cette somme.
Alors pour réunir cette somme, il part, donc il prend le risque de s'arracher aussi à cet amour brûlant pour pouvoir, croit-il, le préserver.
Oui, exactement. Ça part d'une contrainte, d'une nécessité financière, mais aussi intérieure. Pour mieux lui revenir, il faut qu'il parte, se constituer, se ramasser, sauver sa peau. Mais voilà, en fait, dès le départ, c'était l'envie de raconter comment l'exploitation des hommes nous met à l'épreuve dans ce qu'on a de plus intime, de plus brûlant. Comment le système économique pourrait nous dépraver de nos sentiments.
Alors c'est un film en effet sur le prolétariat, mais qui n'est pas du tout naturaliste.
J'avais envie d'accorder à la classe ouvrière, ou en tout cas aux hommes que je filme comme ouvriers, un statut de héros, porteur d'une mythologie. J'ai, lors de mes précédents documentaires, rencontré pas mal d'hommes qui travaillaient, qui s'exilaient, qui se défaisaient vraiment de leur foyer, de leur vie. Et je trouvais qu'ils étaient porteurs de fiction et en effet d'une mythologie très contemporaine et en même temps depuis la nuit des temps.
Ces héros-là, ils sortent de leur contour social, a priori. Et pour ça, pour qu'ils sortent de ça, vous imaginez des choses qui sont inattendues dans le film. La musique de Rodolphe Burger, de la danse chorégraphiée par Jean-Claude Galota, du mime aussi.
Oui, du muet. En fait, ça prend la forme d'une fantaisie. Parce que au fur et à mesure qu'il s'éloigne de chez lui et qu'il s'enfonce dans ce périple, dans cette épopée, en fait, à la façon d'une odyssée, ça devient un voyage intérieur nourri de fantasmes, de peurs, de démesures. Et donc voilà, le film s'envole peu à peu vers quelque chose de déplacé, de décalé.
Alors c'est donc votre premier film de fiction, vous avez déjà réalisé deux documentaires, de jouer dans votre premier film et de le mettre en même temps en scène, c'est aussi une façon de s'inscrire, je trouve, de façon très concrète dans le film et de vous mettre en jeu, c'est quand même une sacrée prise de risque.
On se met toujours en jeu, y compris en documentaire. On incarne le metteur en scène et on joue un personnage. Même quand on est metteur en scène, sans jouer de personnage qui soit écrit, une partition, ça m'a semblé assez naturel en réalité. Quand on écrit, on joue tous les personnages. On a besoin d'un... L'écriture, c'est de l'incarnation, c'est un désir de ça. De jouer, c'est aussi se mettre sur un terrain d'égalité avec les acteurs qu'on a choisis. On va être des semblables.
Cette émission a été préparée par Élodie Royer avec l'aide de Marion Philippe et de Maëlan Loaec. Elle a été réalisée par Clément Baudet avec l'aide de Théo Zanetta. Un grand merci aux équipes de la RSI, la Radio Publique Suisse et à Nicolas Slimani de France Inter. Merci aussi à Chloé Lorenzi pour l'organisation de ces deux émissions à Locarno. Et nous, on se retrouve demain à Paris. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Éric Delvaux pour le Téléphone Sonne. Bonne soirée sur France Inter.